Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Thierry, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Avec nous aussi Élisée Nkwatine depuis Boyukon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous.
Nous retrouvons Amdine Si à Dakar. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et d'ici là, on va retrouver Jules Valentin Ngouéme, direction Casablanca pour retrouver Amine Birouk. Amine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Nous commençons bien évidemment par la finale aller de la Coupe de la Confédération disputée hier au Maroc entre la Renaissance sportive de Berkane et le club égyptien du Zamalek. Les Berkanis peuvent remercier leur attaquant Kodjo Laba. Le Togolais a offert une belle option au club marocain en inscrivant l'unique but de la rencontre dans les arrêts de jeu. Écoutons le rebuteur du match.
C'est pas un match très, très difficile, vu que durant tout le match, on a eu beaucoup d'occasions, jusqu'il n'y avait pas de réussite. Il y a eu la balle, le poteau, le gardien qui fait certains arrêts. J'espère que le match retour, on aura plus de réussite, plus de chance. Je marque le but de la victoire aujourd'hui, mais c'est pas encore fini. On part au Caire pour aller ramener le trophée, Inch'Allah.
Alors, ce propos de Kodjo Laba qui nous a été transmis, bien sûr, par Amine Birouk. Alors, Amine, il y a eu ce but de Kodjo Laba à la 94e, mais bien avant, il y a eu une panoplie d'occasions pour Berkane.
La rencontre où il y avait une opposition de style Yacouba, on a senti l'équipe de Berkane déterminée à faire la différence d'entrée. Ça, c'est une équipe égyptienne qui s'est beaucoup mieux défendue que lors des matchs contre les trois sorties du Sahel, puisque les joueurs des Zamalek ne se sont pas contentés de faire le mur, mais ils ont procédé par de dangereuses contre-attaques, notamment par le biais de leur virevolte international égyptien Karaba. Mais d'autre côté, on a senti de la malchance, de la maladresse, de la nervosité, de l'anxiété. Il y a eu deux poteaux, une multitude d'occasions manquées, notamment sur coup de pied arrêté, et deux, trois actions polémiques avec recours à la VAR, de la part de l'arbitre zambien de la rencontre, M. Sazou, sur un pénalty litigieux, il y a eu recours donc à la VAR. L'arbitre a reçu les consignes de la salle, il est parti voir sur l'écran de la situation avant de juger qu'il n'y avait pas pénalty dans la surface de réparation égyptienne. Et puis, au moment où devait se contenter d'un 0-0, on devait s'acheminer vers. Héroïque de la part des Égyptiens. Les joueurs égyptiens ont peut-être commis un petit péché d'orgueil puisqu'ils ont remonté leur bloc pour pouvoir geler le ballon et peut-être même surprendre l'équipe de Berkane. Et c'est sur une contre-attaque fulgurante avec un contrôle enchaînement magnifique de la Bakodjo, un service pour Hamdi Lachil et une remise intelligente de l'attaquant marocain, de l'alter ego de la Bakodjo. Il y a eu ce but coup de tonnerre à la 94e minute qui permet à la Renaissance de Berkane de partir avec ce maigre avantage en Égypte. Le verdict aura lieu dimanche prochain au Stade Arab d'Alexandrie, une rencontre qui démarrera à 20h GMT, et on verra dans quelle mesure l'équipe marocaine va pouvoir défendre ce maigre acquis face à une équipe égyptienne qui possède dans son ADN la culture de la gagne, avec pas moins de 5 ligues des champions, et puis surtout qui sera soutenu par près de 60 000 supporters, en attendant déjà pour l'équipe du Zamalek qui n'a pas dit son dernier.
Merci bien, Amine Birouk. Alors, Élisée, en face, il faut le dire, le Zamalek aurait pu faire le hold-up parfait, si notamment Obama ou encore Karaba s'était montré beaucoup plus adroit.
Oui, bien évidemment, puisque la bataille, c'était très, très grand au milieu du terrain. On a vu quand même quelques joueurs expérimentés du côté de Zamalek qui ont possédé surtout sur le côté de l'international tunisien Nagui Nagez qui offrait des possibilités aux attaquants. C'est vrai qu'il faut aussi parler de cette défense marocaine qui a su maîtriser les attaquants égyptiens. On a vu quand même quelques occasions de la part de ces attaquants. Mais il faut aussi souligner, Idrissa, que c'est sur l'une des rares compositions des attaquants de Zamalek qu'est survenu le but, puisque suite à cette non-réception du ballon de la part du milieu de terrain, bien sûr, cette contre-attaque, ça a payé cash. Et voilà, le Togolais a été plus rapide que la défense de Zamalek. Et suite à cette déviation, bien, il a dû battre l'excellent gardien de but de Zamalek. C'est pratiquement le troisième gardien de but. Et il a su profiter de la blessure des deux premiers titulaires pour s'imposer dans les cages de l'équipe de Zamalek. Il a sauvé à plusieurs reprises l'équipe de Zamalek. Les attaquants les attaquants égyptiens ont tous joué à la prudence. On a senti à un moment donné, surtout en seconde partie, que les Égyptiens voulaient jouer le match nul, puisqu'ils n'attaquaient plus. Et c'est vrai que bon, il reste encore un match retour. On espère qu'on aura une très belle partie dimanche prochain.
Alors Thierry, on a vu la renaissance sportive de Berkane qui a eu 60% de possession de balles. Le Zamalek a défendu. Pensez-vous que ce soit une volonté des Égyptiens ou ils ont simplement été dépassés par la fougue des Marocains?
Pas forcément, je pense que c'était bien pensé, hein. C'était leur plan de jeu, venir jouer à la retenue et procéder par des contre-attaques qui ont failli payer. Hein. Mes prédécesseurs ont évoqué des occasions franches dont les Égyptiens se sont procurés tout au long de ce match. Il est vrai qu'ils ont subi durant la quasi-totalité de la partie la domination des Marocains qui a d'ailleurs payé en toute fin de partie, comme pour dire qu'à ce niveau, toutes les occasions comptent. À ce niveau, il faut jouer jusqu'à la dernière seconde du match. Il faut saluer les performances et Élisée le souligner du gardien de but du Zamalek, de la défense qui a bien fait son boulot et même de celle des Marocains. Mais à la fin, on va dire que cette équipe du Zamalek avait ce plan de jeu-là de pouvoir défendre, limiter la casse au Maroc. Face à une très belle formation de Berkane que j'évoquais la semaine dernière et essayer d'assurer à la maison. Ils ont pris un but, c'est un score piège. On se rappelle toujours de cette demi-finale qui est restée à travers la gorge des Congolais entre l'Espérance de Tunis et le tout-puissant Mazembe Angeber. Attention à ce score. Maintenant, il faut revoir le plan en vue du match retour ce dimanche. Ils vont ouvrir le jeu à domicile devant leur public. Mais on va voir les Marocains de leur côté vont plutôt chercher à gérer le score d'entrée ou chercher à scorer également en terre égyptienne. Ils en sont capables en tout cas. Ça reste un match ouvert, une finale retour très très ouverte. Mais je pense que la stratégie des Égyptiens lors de cette manche a failli tenir. Il fallait parler de très 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 peu. On a joué les quelques secondes, mais voilà, c'est ça le haut niveau, c'est ça une finale de Coupe d'Afrique. Et voilà, bravo aux deux équipes, on attend justement le deuxième match de cette finale.
En attendant justement le deuxième match de cette finale, Amdine, ce qu'on a remarqué, c'est que cette équipe de Berkane peut aller jusqu'au bout de son ambition, à savoir décrocher son premier trophée continental.
Tout à fait, Yacouba. Moi, j'ai aimé l'attitude des joueurs marocains parce que c'est leur première finale. Il y avait de l'émotion, mais ils ont su gérer tout ça parce qu'il fallait le faire. Parce qu'en face, ils avaient une équipe égyptienne très, très organisée et une équipe expérimentée. Comme c'était leur première finale, ils font tout pour entrer dans l'histoire. Ils l'ont bien négocié et ils l'ont gagné au mental, parce que marquer un but dans le temps additionnel pour une équipe qui joue pour sa première finale, il fallait le faire et ils l'ont fait. Je pense qu'ils ont bien négocié la première manche, mais maintenant, c'est d'aller en Égypte, essayer de jouer, parce que c'est une deuxième mi-temps, il faut aller en Égypte négocier pour pouvoir quand même écrire cette belle page de l'histoire de cette équipe, parce que cette équipe de Berkane a du mérite, vraiment, elle a du mérite, parce que cette équipe qui vient de découvrir cette compétition depuis l'année dernière et qui négocie avec tous les problèmes qu'ils ont eu, avec tout le tralala qu'il a eu autour de l'arbitrage, ils parviennent à gérer pour inscrire quand même leur nom. Je pense que c'est une bonne chose, et la présence de Hervé Renard aussi lors de cette finale a été bénéfique pour cette équipe parce que les joueurs sont super motivés et ils l'ont fait. Ils ont réalisé l'exploit. Maintenant, il reste à négocier la seconde manche, Yacouba.
Hervé Renard, donc, qui était dans les tribunes, tout comme l'attaquant blessé de la Renaissance sportive de Berkane, Alain Traoré, qui était lui aussi dans les tribunes. Il a suivi ce match et il a une idée pour le match retour. On l'écoute.
C'était vraiment un très bon match, très très tactique. Voilà, Zamalek nous a posé beaucoup de problèmes, surtout défensivement, et ils explosaient en contre. Voilà, mais il fallait bien gérer ces matchs. Je pense qu'on a bien su bien les faire et on part la semaine prochaine avec un but d'avance. Et je pense qu'on va tout faire pour conserver ce but d'avance là-bas.
Des propos recueillis par Amine Birouk. Alors Amine, hier on a vu cette équipe de Berkane montrer qu'elle peut bien aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il faut continuer, disons, dans la même lancée et prendre l'initiative du jeu plutôt que de vouloir défendre ce but au match retour, auquel, comme le disait tout à l'heure Alain Traoré?
Il faudra un savant dosage entre prudence, parce que les Égyptiens vont pousser d'emblée, ils sont soutenus par un public indéfectivement attaché à leur cause. Il y aura certainement quelques petites contrariétés en arrivant au pied du Nil. Donc il faudra jouer un savant dosage entre la prudence et pouvoir jouer tous les coups à fond. L'équipe de Renaissance de Berkane n'est pas une équipe qui sait faire le jeu. C'est une équipe qui est très à l'aise dans les espaces. Avec un joueur comme Lada Kojo, avec Hamid Michel, avec la possibilité de pouvoir se prendre l'équipe égyptienne qui possède une arrière-garde assez lente. L'absence d'un joueur comme Miguel qui sera suspendu pour la finale retour sera un atout non négligeable. Donc on verra comment l'équipe va se préparer. D'ailleurs, ils arrivent en Égypte demain soir. Donc ils prennent l'avion en après-midi à partir de Casablanca pour arriver au Caire. Ils passeront une nuit au Caire avant d'aller à Alexandrie, se préparer au calme pour cette rencontre. L'option la plus factible, c'est que l'équipe de la Renaissance de Berkane puisse opter pour un bloc médian. Avec un pressing lorsqu'il faudra filer la relance de l'équipe égyptienne et la possibilité de jouer tous les coups en contre. Vous avez remarqué que lorsque les Égyptiens ont serré les rangs jouant avec un bloc bas, Berkane a eu du mal à se procurer des occasions. La plupart de ses actions étaient des feintes ou sur coup de pied arrêté. Lorsqu'il y a eu ce ballon de contre avec un boulevard, Lavakoudjo a profité de la circonstance pour pouvoir planter cette banderie et donner cet avantage à l'équipe de la Renaissance de Berkane qui va devoir maintenant supporter la pression, parce qu'il y aura la presse égyptienne, il y aura beaucoup de contrariétés qui seront certainement posées à l'équipe de Berkane. On connaît un peu l'ambiance de ces rencontres entre équipes nord-africaines. Et puis, il y a la culture de la gaine de cette équipe de Zamalek qui va récupérer quelques blessés, qui va récupérer son gardien de but titulaire et qui sera certainement poussé au bout par tout un public pour pouvoir atteindre son premier titre en Coupe CAF.
Toujours dans les compétitions interclubs, le Wydad de Casablanca recevra l'Espérance de Tunis samedi 25, donc pour la finale aller de la Ligue des Champions. Alors Thierry, la Renaissance sportive de Berkane a peut-être montré la voie à suivre à ses compatriotes du Wydad.
Ah oui, depuis l'année dernière d'ailleurs, on l'a souligné ici que le Maroc a étaient parmi les meilleures nations du football africain actuellement. Ils ont remporté le Chan. Et là, ils ont deux ambassadeurs en finale de compétitions interclubs de la CAF. Et bien voilà, le Wydad n'a qu'à faire le boulot face à l'Espérance sportive de Tunis, comme l'a fait la jeunesse sportive de Berkane, même si cette formation avec le football qu'il a produit, hier méritait beaucoup mieux que ce 1-0. Donc on attend voir ce que va faire le Wydad de Casablanca face aux tenants du titre qui, on l'a vu d'ailleurs durant leur parcours, sont capables de bien réussir à l'extérieur et surtout de donner le meilleur d'eux-mêmes, de jouer sur leur expérience également pour se donner des possibilités de conserver ce titre en Ligue des Champions.
Alors Amine, comme en Coupe CAF, le club marocain reçoit pour le match aller. Déjà, il faut sans doute être costaud à domicile pour ne pas compromettre surtout ses chances lors du match retour. Amine?
Oui, cette confrontation vendredi à partir de 22h GMT, il faudra que le Wydad de Casablanca soit beaucoup moins fébrile qu'en championnat. Un 27e titre de champion qui lui était promis depuis de nombreuses semaines, et puis l'équipe n'arrive pas à concrétiser. Elle subit la pression. Dernièrement, une défaite et un match nul sont venus un peu compromettre cette embellie du Wydad de Casablanca qui va devoir passer à autre chose. L'équipe va disposer de tous ses cadres. Entraîneur José Benzarti n'aura peut-être qu'une seule absence, celle de l'arrière-gauche Naïli qui sera suspendu pour cumul de cartons jaunes, qui devra purger donc son deuxième match de suspension. De l'autre côté, il y a une équipe d'Espérance de Tunis qui ne perd pas en championnat et qui vient d'accrocher un match nul assez valeureux contre l'Étoile sportive du Sahel samedi. C'est une équipe qui peut compter sur de très nombreux cadres. Et puis, visiblement, les Tunisiens vont venir pour serrer le jeu, pour pouvoir
limiter la casse et tout laisser pour le match qui aura lieu à Rabat une semaine plus tard. On verra si Louis de Casablanca, avec les éléments d'expérience, il y en a beaucoup qui ont été titrés ou qui ont été sacrés en 2017, vont pouvoir faire la différence. Il leur manque un killer de surface. Louis de Casablanca peut disposer du Libérien Gibour, mais celui-ci, visiblement, n'entre pas dans les plans de l'entraîneur tunisien Fawzi Benzerti. Et visiblement, un neuf, un renard des surfaces, un joueur capable de transformer en but les passes décisives de ses coéquipiers, se fait sentir. Donc Louis Dès va devoir compter sur ses atouts qui sont deux joueurs de couloir très rapides comme Haddad et comme Onajem, la créativité du milieu de terrain, la solidité du bloc et le fait de pouvoir jouer avec un pressing très élevé, un rythme qui pourrait peut-être gêner l'équipe tunisienne. Et puis sachez que Fawzi Benzerti connaît bien le football tunisien. Il a entraîné l'Espérance de Tunis à de multiples reprises. Et puis, il était déjà à la tête de cette équipe de l'Espérance de Tunis lorsqu'elle avait remporté sa première Coupe d'Afrique des clubs champions en 1994. Ça fait 25 ans. Ça fait trop longtemps pour une équipe de l'Espérance de Tunis qui ambitionne, comme vous le savez tous, de défendre victorieusement le titre conquis la saison dernière face au RC Égyptien.
On attendra donc de voir tout cela samedi. Vous suivez Sporama, suivez Afrique. L'émission revient tout de suite. C'est officiel, le jury disciplinaire de la CAF a pris des sanctions contre la Guinée pour avoir utilisé des joueurs inéligibles à la CAN des moins de 17 ans. Tanzanie 2019, Aboubakar Konté et Ahmed Tidiane Keïta sont reconnus coupables de possession de deux passeports différents. On va revenir sur cette affaire. Dans un premier temps, pendant la CAN en Tanzanie, la CAF avait débouté le Sénégal, mais le jury disciplinaire annonce avoir obtenu de nouveaux éléments, notamment les passeports utilisés par les joueurs suscités lors d'un tournoi de jeunes au Japon 2 ans plus tôt et qui ne correspondent pas à ceux enregistrés dans le système de la CAF pour la compétition. La conséquence, elle est là. La Guinée, pourtant finaliste, est exclue de la compétition. Le pays est également empêché de représenter l'Afrique au mondial des U17 prévu au Brésil et est privé de participer aux deux prochaines éditions de la CAN des moins de 17 ans. Aboubakar Konté et Tidiane Keïta sont interdits d'exercer toute activité liée au football pour une période de 2 ans. La Fédération guinéenne de foot écope, elle, d'une amende de $100 000. Le jury disciplinaire de la CAF a recommandé au comité exécutif de remplacer la Guinée par le Sénégal pour cette Coupe du Monde des moins de 17 ans. Alors, Amdine, c'est suite à la plainte du Sénégal que cette décision a été rendue. Dites-nous comment votre pays a pu prouver l'inéligibilité de ces deux joueurs guinéens là.
Bon, c'était clair dès le début, Yacouba, parce que le Sénégal a participé à ce tournoi, la Dream Cup qui s'est tenue en 2017, c'était au Japon. Le Sénégal avait participé à ce tournoi, comme les Guinéens, et les responsables du football sénégalais ont vu et ont constaté que ces mêmes joueurs guinéens qui avaient participé à ce tournoi réservé à des joueurs de moins de 20 ans ont y participé. Et grand a été leur surprise de voir que ces joueurs ont changé d'identité. C'est le Sénégal donc avait porté quand même réserve auprès des instances de la CAF. Le Sénégal avait sorti quand même des documents prouvant que ces deux joueurs guinéens avaient changé de nationalité. Bon, avaient changé d'identité entre ces deux tournois. Et les responsables de la CAF avaient saisi en son temps les responsables de la Fédération japonaise de football. Et ce sont la Fédération japonaise de football les responsables de la Fédération japonaise de football qui ont produit ces documents. C'était clair, net pour participer à un tournoi international, tu donnes ton passeport pour avoir le visa, tout ça, tu donnes ton passeport. Et ils ont donné les passeports de ces deux jeunes Guinéens à la Confédération africaine de football qui a tranché. Mais le Sénégal n'avait pas du tout laissé cette affaire, sûr d'avoir gain de cause. Le Sénégal avait saisi le TAS. Mais lorsque les responsables de la Fédération de la CAF ont su ça, ils ont tranché en faveur du Sénégal. Moi, je pense que la CAF devait le faire depuis. Depuis lors, la CAF devait prendre cette décision, mais comme le dit l'adage, mieux vaut tard que jamais, la Guinée a été sanctionnée. Moi, je regrette la sanction de ces jeunes parce qu'ils ne sont pas du tout responsables. C'est la Fédération guinéenne qui est responsable à 100%. Et la CAF...
Amdine, ils sont aussi responsables parce qu'ils savent ce qui se passe, en fait.
Oui, mais
Mais ils sont jeunes, tu sais, quand tu es jeune, tu peux te faire manipuler. Je pense que la responsable, c'est incombe aux responsables de la Fédération guinéenne de football, mais aussi de la CAF, qui n'a pas tranché au bon moment, puisque le Sénégal, c'est vrai, a été... le Sénégal a été lésé, mais n'oubliez pas aussi que le Nigeria aussi a été lésé, parce que le Nigeria a été éliminé en demi-finale par cette même équipe guinéenne.
Tout à fait, Amdine.
Le Sénégal revient pour participer à la Coupe du Monde. OK, c'est une bonne chose, mais le Nigeria pouvait prendre la Coupe, éliminer la Guinée et prendre la coupe.
Tout à fait, Amdine. Amdine, on vous a très bien compris. Alors, dans une sortie en réponse, la FEGIFOOT, la Fédération guinéenne de football, a annoncé qu'elle va faire appel de cette décision qu'elle estime manifestement erronée, ce sont ses termes. Alors, Thierry, c'est vrai que c'est son droit, hein, mais est-ce qu'il ne faille pas reconnaître simplement et faire comme Constant Omari l'a fait pour la RDC, disqualifié dans les éliminatoires de la CAN des Espoirs, disant ne pas vouloir engager un combat perdu à l'avance?
Je ne dirais pas qu'il faut faire exactement comme Constant Omari l'a fait, parce que la décision de Constant Omari ici n'a pas fait l'unanimité. C'est vrai qu'on a sanctionné quelques faibles au niveau de la Fédération congolaise de football association, parlant des U23 de la République démocratique du Congo. Puis l'affaire s'est arrêtée là, alors qu'il fallait creuser, alors qu'il fallait absolument qu'il y ait des sanctions, on va dire, plus importantes et que l'on revoie le système pour que le pays ne subisse plus une telle humiliation. Je crois qu'il est l'heure pour l'Afrique de mettre un peu de l'ordre sur ce point-là. Ça ne sert à rien de tricher. On l'a dit et répété, c'est ridicule à chaque compétition des jeunes que l'on reparle de cette affaire qui fait la honte au continent africain. Moi, je suis d'accord sur les sanctions, je suis tout à fait d'accord. Il faut des sanctions plus importantes et il faut renforcer les mesures de contrôle pour que des fédérations véreuses, pour que des dirigeants qui veulent tricher à ce niveau-là ne puissent plus se le permettre et puissent être dissuadés par des mesures que la CAF doit absolument prendre, comme la FIFA l'a fait, comme ça se fait dans d'autres continents.
Merci bien. Thierry, alors Amine, on sait que le Maroc s'était aussi plaint des âges des joueurs camerounais. Le souci, c'est aussi de pouvoir prouver matériellement que certains joueurs ont plus que les âges à eux attribués. Amine?
Je disais que sachez qu'il y a plusieurs techniques pour pouvoir détecter ces tricheries. Il y a aujourd'hui les tests IRM qui sont ultra perfectionnés. Il y a la possibilité de faire un traçage de ces joueurs-là via les multiples compétitions qu'ils ont dû disputer chez les jeunes. Le fait qu'il y ait des licences, le fait qu'il y ait des passeports, donc il y a des polices des frontières qui peuvent aider. Donc il y a beaucoup de techniques pour qu'il va falloir quand même que certains de nos dirigeants comprennent que le temps des tricheries, le temps de ce genre de petite magouille est dépassé. Il va falloir qu'on commence à disputer les compétitions avec des vrais U20, des vrais U23, de façon à pouvoir donner l'exemple, avoir une certaine éthique dans le sport, et puis que le principe de l'égalité des chances soit défendu jusqu'au bout.
Merci.
Aujourd'hui, il est inconcevable que l'Afrique puisse être représentée dans des compétitions mondiales et olympiques avec des joueurs qui n'ont pas l'âge requis, où il est inconcevable aussi que l'Afrique puisse être prise sur le fait, la main dans le sac, dans ce genre de situation.
Merci bien, Amine. On va rappeler que sur le continent, le week-end dernier également, il y a eu à Abidjan, la finale du tournoi UFOA-B Dames, une finale remportée par le Nigeria, vainqueur au tir au but devant la Côte d'Ivoire. Et pour terminer, très rapidement, l'Ivoirien Nicolas Pépé est le vainqueur du prix Marc Vivian Foué qui récompense le meilleur joueur africain de la Première Ligue. Alors, Élysée, ce n'est pas une surprise et Nicolas Pépé le mérite bien. Très rapidement.
Bien évidemment, il faut le dire, Yacouba, puisqu'il a amené le Lost, l'Olympique Lille Club à ce niveau de la compétition à lui seul. Il a pratiquement fait évoluer cette formation. L'année dernière, on n'a pas vu un Nicolas Pépé aussi exceptionnel, mais cette année, il a permis donc à l'équipe entraînée par Stéphane Galtier, qu'on connaît très bien, l'ancien entraîneur de l'AS Saint-Étienne, qu'on nous souhaite que du meilleur et que une grande formation d'Europe plus en l'aurait pour plus progresser davantage.
Merci bien. Élysée Nkwatine depuis Boyukon Sporama qui s'achève ici. Je rappelle qu'on était également avec Amine Birouk à Casablanca, Thierry Kamboundi à Kinshasa, Élysée Nkwatine donc tout à l'heure à Boyukon. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je n'oublie pas Amdine Si depuis Dakar. Sporama qui s'achève ici. À la console Chang, à la réalisation Sims Lumami et Georges Léonard Sagno. À la présentation Yacouba Ouédraogo. On se dit à lundi prochain.